merci Daniel et bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Je vous invite à une première lecture dans le livre de l'Exode, premier chapitre. Et pendant les semaines qui vont suivre où moi je vais prêcher, probablement qu'on va rester un peu plus souvent dans ce livre d'Exode. Chapitre 1, et nous allons lire tout le chapitre. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gath et Aser. Des personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons-les qu'ils ne s'accroissent et que, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on accablait le peuple, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant de l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Jusque-là dans l'Exode, et quelques versets dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et que ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Jusque-là, les lectures. Père éternel, nous te demandons de nous sanctifier par ta parole. Merci parce qu'elle est là, qu'elle a traversé les siècles, mais elle est toujours présente. Elle est toujours d'actualité. Seigneur, nous puissions avoir les oreilles de notre cœur ouvertes pour entendre ton message, ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons-nous désobéir à l'autorité établie? Ah, quelle question, hein? Si l'on croit à notre premier récit, la réponse est oui. Si on écoute Paul, on pourrait dire non. Comment faire face à nos dirigeants, face aux lois établies, face aux obligations, face à notre feuille d'impôt peut-être. Aïe, 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 Jean-Luc a été payé pour contrôler. Non. Loin de là, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de débattre sur les décisions prises par notre gouvernement, sur la hausse de l'énergie, sur la flambée des carburants, sur la taxe de poubelle ou sur toute autre validité de manifestation. Rendez à tous ce que leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur, dira Paul. Aujourd'hui, nous pourrions dire que Paul a fait du plagiat, parce que Jésus a déjà dit la même chose quelques années auparavant. Dans Marc 12, verset 14, voilà ce qu'il est dit. Question à Jésus. « Maître, nous savons que tu dis vrai. » Ah, enfin, ils reconnaissent. « Et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» La réponse de Jésus, tout le monde la connaît. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il faut savoir que l'Empire romain avait un code de loi appelé « Loi des 12 tables », oui, qui fut instauré 450 ans avant Jésus-Christ et qui resta actif pendant 1000 ans. Et l'Empire byzantin qui suivra s'inspira de ses influences et nos codes civils actuels ont été influencés par tout ça. Donc, au niveau des lois, pas grand-chose qui change. Mais qu'en est-il de notre récit de l'Exode qui se situe 1880 avant Jésus-Christ? Code de loi ou pas? Bien qu'aucun code juridique de l'Égypte ancienne ne subsiste, on n'a pas retrouvé de documents, on a retrouvé d'autres documents judiciaires rédigés par des scribes qui montrent un droit égyptien étant fondé sur le bon sens du bien et du mal et qui mettait l'accent sur des accords réciproques pour résoudre les conflits. Parfois, il y avait un tribunal qui était dirigé par des anciens et des personnes du gouvernement, mais toujours présidé par le pharaon. Toujours présidé par le roi lui-même. Nous comprenons que dans notre récit, un changement de roi en Égypte pouvait influencer le pays et sa gestion. Et c'est ainsi que ça se passe. Un nouveau roi arrive, qui dirige le pays d'Égypte et qui n'a pas connu Joseph, et l'histoire extraordinaire pour sauver la famille de la famine et en même temps le pays. La famille de Jacob s'est agrandie et devenue un peuple comme prévu. Dieu l'avait annoncé dans ses promesses, à tel point que le pays en est rempli. Ça devient une menace. Et les Égyptiens, et pour le pharaon, il n'y a plus Joseph pour mettre un peu un terrain d'entente selon le droit égyptien. Pas de discussion. C'est le pharaon qui dirige. Plus personne pour négocier et organiser la vie populaire. Le roi se sent menacé. Il n'essaie même pas de chercher un responsable ou quelqu'un pour discuter en Israël. C'est lui, il prend tout en main. Il a l'autorité, donc il peut décider de tout. Il fait tout et tout le monde doit obéir. On retrouve vraiment cette gouvernance dans certains pays totalitaires encore, hélas, aujourd'hui. Si nous nous penchons sur les sentiments qui animent et déclenchent ce genre de gestion autoritaire, nous voyons que c'est souvent les mêmes. L'orgueil. Ha, l'orgueil. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Exode 1, verset 9. Le nombre et la puissance, plus que l'autre, plus grand que l'autre, tout ça est à la base de l'orgueil. Être mieux qu'autrui, être plus grand, être plus puissant, être le meilleur, toujours être au-dessus de l'autre. Tant qu'à faire, on l'écrase. Quand on dit Égypte, la première chose, la première image qui nous vient, les pyramides, le sphinx, les obélisques monumentaux montrent une supériorité de la nation. Pour info, les premières pyramides datent de 2700 avant Jésus-Christ. Et puis le deuxième sentiment, c'est la peur. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 10. La peur des ennemis, la peur de la guerre, la peur de la trahison, la peur de la honte, d'être humilié, de devoir capituler, d'être anéanti, tout simplement. Je ne suis plus rien, alors que j'étais le roi. L'attitude du pharaon est celle de quelques-uns qui ne connaissent pas l'Éternel. Pharaon ne connaît pas Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a donné cette promesse que son peuple sera plus grand et plus puissant et plus nombreux que les étoiles du ciel. Pourtant, les Égyptiens avaient une pléthore de divinités, plus de 1000 déesses et dieux. Ils avaient le choix, hein, avec des pouvoirs surnaturels. Le plus connu, évidemment, c'est Ra, le dieu soleil. Quand vous faites des mots croisés, dieu égyptien, deux lettres. Mais rien. Rien concernant le Dieu unique. On n'en parle pas. Il y a bien eu un pharaon du nom d'Akhenaton et de sa femme Néfertiti, qui était le parent de Toutankhamon, des noms qui vous disent quelque chose. Il n'adorait qu'un seul Dieu, mais il n'a pas fait long feu. Il a vite été éliminé. Aton veut dire Dieu unique. Amon veut dire plusieurs dieux. Pour votre information, si vous entendez des noms de pharaon, tout en Camon, c'est plusieurs dieux, tout Aton, c'est un seul dieu. Je ferme la parenthèse. Si le roi d'Égypte avait eu connaissance de Yahvé, il n'aurait peut-être pas réagi comme il l'a fait. Il aurait su que Yahvé est celui qui est et qu'il tient ses promesses. Alors essayer d'empêcher les enfants d'Israël de se multiplier, de sortir du pays d'Égypte, c'est comme essayer de construire une tour de Babel par ses propres moyens pour atteindre le ciel. C'est voué à l'échec. C'est mal connaître Dieu. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mais pour en découdre avec ces angoisses de voir ceux qui se sont véritablement devenus en nombre, mais qui sont quand même des travailleurs et qui sont quand même une mine d'or et de main-d'œuvre pour le pays d'Égypte, voir tout ça partir. Le pharaon va user de ruses. Montrons-nous habiles, dira-t-il à son peuple. Il se dit par lui tout seul. Il ne dit pas à ses conseillers, non, il dit à tout le monde. Vous remarquerez qu'en tout bon dictateur, il s'adresse à toute la nation. Ah, quand on secoue le peuple, ça fait des dégâts. Nous souvenons des discours d'avant 1940 qui stimulaient la population à la grandeur du pays et à la haine contre le peuple de Dieu. Nous en avons vu les conséquences. Mais le pharaon ne va pas seulement parler, il va agir. Il va mettre la pression qui va aller en escalade. Escalade. Ce mot d'actualité, hélas, qui résonne quand on entend parler du conflit Ukraine-Russie, l'escalade et la désescalade. Pharaon va passer à l'action, passer par l'accablement, verset 11, par l'aversion, c'est le véritable dégoût, verset 12, et une dure servitude, verset 13, et tout cela avec cruauté, verset 14. Nous avons l'impression que le temps n'a pas enseigné l'homme. L'homme sans Dieu, surtout. Mais quand les dirigeants ne calculent pas avec Dieu, avec le Dieu unique, ils peuvent entraîner tout un pays, tout un peuple à se rendre cruel, quitte même à tuer son voisin, tuer son frère, à dénoncer telle ou telle personne. Nous ne pouvons pas oublier ces nombreux chrétiens non plus, persécutés sous des régimes d'esclavage, encore hélas de nos jours. Comment est-il possible qu'au XXIe siècle, nous vivions encore cela? Qu'est-ce qu'on a déjà entendu cette phrase? Est-ce qu'on peut encore vivre ça au XXIe siècle? Phrase type des journaux et des hommes et femmes étonnés que le monde soit resté aussi cruel. Alors, désobéissance civile ou pas? À l'époque, si vous êtes égyptien, non, pas trop de soucis. On est couvert, ce n'est pas nécessaire. Par contre, si on est hébreu, la question se pose. Je suis soumis et je crève. Alors une autre question se pose. Mais que fait Yahvé, cette promesse? Qu'est-ce que Dieu fait? Il faut peut-être lui donner un petit coup de main, peut-être, hein, une grande manifestation, allez, tous à Bruxelles. Ou je dérape, je crois. Mais en fait, qu'est-ce que la désobéissance civile? Et d'où vient-elle? Et j'ai trouvé une définition que je vous donne, que vous pouvez trouver facilement. La désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé inique par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique. Et le terme fut créé par l'Américain Henry David Thoreau dans son essai « La désobéissance civile », il existe un livre, publié en 1849. Pas nouveau, hein, 1849. À la suite, lui, de son refus de payer une taxe destinée à financer la guerre contre le Mexique. On comprend le gars. La désobéissance civile est contraire à l'utilisation de la violence pour faire passer ses idées. Ça tient à signaler. C'est pacifiste. Revient alors notre question de départ. Pouvons-nous désobéir à l'autorité? Si on en croit notre premier récit, la réponse est oui. Si on en croit Paul, c'est non. Poursuivons le récit de Exode. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait, s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Employons un mot d'aujourd'hui, discrimination. Les filles avaient le droit de vivre, mais les garçons, pas, bah, ils devaient mourir. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ce sont des barbares. De nos jours, c'est inadmissible. On a évolué quand même. Il n'y a quand même pas si longtemps que ça, dans une certaine partie du monde, pour réguler les naissances, les autorités du pays avaient décrété la naissance d'un seul enfant par couple. Les petits garçons étaient gardés. Ah, c'est le contraire. On gardait les petits garçons parce qu'ils pouvaient pouvoir à la famille, et les filles étaient rejetées et soit abandonnées dans un orphelinat, si elles avaient un peu de chance, ou elles étaient vendues à l'exportation. Discrimination. N'allons pas trop loin, sans prendre position. Que penser de nos avortements, de nos euthanasies, ou encore de notre évolution vers le choix du sexe de notre enfant avant la conception? Discrimination. Notre monde dit moderne est-il moins cruel que ne le décrit l'auteur de l'Exode vis-à-vis de l'Égypte ancienne? Avons-nous tellement évolué? Comment accepter que des sages-femmes destinées à donner la vie puissent la prendre en donnant la mort? Sages-femmes, quel beau mot. Dans notre récit, elles portent bien ce nom lié à la sagesse. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Elles ont désobéi. Elles ont désobéi à l'autorité. Désobéissance civile. Il n'y a rien de violent. Il n'y a pas de rébellion. Tout ça, discret dans les calmes. Mais elles ont désobéi quand même. Réfléchissez à ça. Et je fais une petite parenthèse. Il nous a cité seulement le nom de deux femmes. Comment aurait-elle pu gérer le nombre de naissances d'un peuple en grande expansion? Ils seront, selon Exode 12-37, 600 000 familles en sortie du pays d'Égypte environ 80 ans plus tard. Il faut savoir que l'Égypte était un peuple très organisé. Il y avait des responsables pour telle et telle partie du pays, telle et telle partie d'une section, tel et tel nombre de personnes, pour telle et telle activité. Il est probable que le peuple hébreu avait acquis aussi cette organisation et que c'était deux sages-femmes qui géraient toutes les sages-femmes du pays. Il y avait certainement une grande organisation. Je ferme la parenthèse. Avez-vous réfléchi à cette désobéissance? Nous disions donc que ces sages-femmes désobéissent et quelque part font aussi désobéir toutes celles qui sont avec elles. Toutes les sages-femmes du peuple. Pharaon, qui a des antennes partout, en est averti et convoque nos braves sages-femmes et leur demande des comptes. Et là, pour se justifier de leur désobéissance, elles mentent. Désobéissance et mensonge vont généralement de pair. Si on s'arrête sur cette lecture du texte, on est mal. On peut se poser la question. L'enfant d'Israël, le fils ou la fille du peuple de Dieu, peut mentir. Le chrétien aussi, alors. Hein. Pourquoi pas? Tant qu'à faire, relisons le texte. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Est-ce vraiment un mensonge? Ou est-ce bien la vérité? Croyez-vous que Dieu pourrait supporter le mensonge, même pour protéger ses enfants? Le père du mensonge, on sait qui c'est. C'est le diable. Utiliser ses armes pour vanter l'œuvre de Dieu serait quand même un manque de foi caractérisé. Dans leur réponse, les sages-femmes usent vraiment de sagesse. Elles mettent l'une face à l'autre les femmes égyptiennes et les filles d'Israël. Il y a une différence entre les deux. Les femmes du peuple de Dieu sont davantage vigoureuses et ont une capacité d'accoucher seules avant l'arrivée du service médical. Nous ne sommes pas en Belgique. Il n'y a pas d'ambulance, pas de voiture pour intervention urgente. Et Pharaon ne croit que ce qu'il voit. N'ayant pas mis Dieu unique dans sa vie et sa gestion, il ne peut savoir comment Dieu fortifie ses enfants et ses femmes. Dieu fait du bien aux sages-femmes. Dieu bénit les sages-femmes. Je répète donc ma question. Croyez-vous que Dieu pourrait supporter le mensonge, même pour protéger ses enfants? Croyez-vous que Dieu bénirait des rebelles menteuses? Nous avons donc un cas de désobéissance sans mensonge. Comment est-ce possible? Relisons juste deux versets. Exode 1:17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qui avait été dit par le roi d'Égypte. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est là la véritable motivation de l'opposition aux autorités. C'est de toute manière la seule motivation qui doit occuper notre vie. Nous devons choisir entre la crainte de Dieu et la peur des représailles humaines du monde. Nombre de martyrs en ont fait les frais. Encore de nos jours, combien sont persécutés pour leur seul motif de craindre Dieu. Morts pour leur foi, persécutés parce qu'ils croient en Jésus. Pour terminer, Paul nous dit d'être soumis aux autorités par motif de conscience. Romains 13, 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Si vous faites arrêter, que vous n'avez pas de permis, que vous avez un taux d'alcool excessif, pas d'assurance, c'est sûr qu'il faut craindre. Mais sûrement en ordre. Pourquoi craindre ? Nous avons le droit de ne pas être d'accord avec ce qui nous est imposé par nos autorités. Mais avant de réagir, et devant ce texte, posons-nous quelques questions. Est-ce que ce qui m'est imposé va à l'encontre de ma crainte de Dieu ? Est-ce que ça entrave ma relation avec Dieu ? Est-ce que ça m'empêche de glorifier Dieu ? Est-ce que la gloire de Dieu est entachée ? Si Dieu est pour nous, vous connaissez la suite. Qui sera contre nous ? Usons donc de sagesse et souvenons-nous des sages-femmes et aussi du brigand sur la croix. Souvenez, il n'a plus rien à perdre, lui. Il disait à l'autre, ne crains-tu pas Dieu ? Ne crains-tu pas Dieu ? Les sages-femmes furent bénies et le brigand fut directement au paradis. Voilà les conséquences de la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Nous n'avons pas à avoir peur de toi, mais simplement avoir cette crainte respectueuse que tu es notre papa. Merci parce que tu es notre rocher, notre refuge, comme Daniel nous l'a dit. Nous voulons croire que tu nous gardes et tu nous protèges. Merci parce que tu es au-dessus aussi des autorités. Mais nous voulons te faire confiance, à toi d'abord. Mais qu'à toi revienne toute la gloire et qu'elle ne soit entachée par rien au monde, rien de ce qui est de ma vie, ni de ton Église. Au nom de Jésus. Amen.